Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier.
Bienvenue, si vous venez tout juste de nous rejoindre, du super service compris comme toujours. Hein, il y a quelques instants, c'est Serge Maître, le secrétaire général de la FUB. Si vous avez pris l'émission en cours de route, il y a bien sûr le podcast en fin d'après-midi sur sudradio.fr. Et maintenant, un médecin à votre disposition jusqu'à 14h, le professeur de médecine Boyan Christophorov. Bonjour professeur.
Bonjour Véronique.
Ancien chef de service interniste à l'hôpital Cochin et gastro-entérologue. Alors vous en avez vu, hein, des vertes et des pas mûres, comme on dit, hein, dans votre cabinet de médecin, vous voyez toujours, puisque toujours, vous consultez toujours, évidemment, hein, vous êtes un bon médecin, toujours au chevet de ses patients. Vous voulez nous alerter aujourd'hui, professeur, sur les antibiotiques. Alors là, c'est vrai que les antibiotiques, on pourrait faire chaque semaine des émissions sur les antibiotiques, parce que on a déjà des appels d'auditeurs, et on se rend compte à travers leurs questions qu'on confond toujours pas mal de choses. Les antibiotiques, ce sont quoi? Ce sont des médicaments qui agissent sur les microbes et non sur les virus, c'est bien
absolument
ça. Bah alors moi déjà, j'ai rien compris. Expliquez-nous la différence microbes-virus.
Ben les microbes, ce sont des organismes qu'on voit au microscope, qui se divisent et qui sont responsables d'une assez longue liste de maladies. Les virus, ce sont des structures que l'on ne voit pas au microscope simple, on peut les voir au microscope électronique, et ce sont des molécules qui se multiplient, mais d'une autre façon, et qui sont responsables d'une autre catégorie de maladies.
Oui, mais alors par exemple, quand on a un rhume, c'est pas la peine de prendre des antibiotiques, parce que par essence, on est victime d'un virus et pas d'un microbe, c'est ça?
Tout à fait.
Ah,
tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Bon, et alors que la plupart des gens se ruent sur les antibiotiques en disant ça va aller mieux,
c'est
je suis
vrai.
Un petit peu groggy. Hein,
c'est vrai,
voilà.
C'est vrai.
Donc
c'est
ça, c'est la première image d'Épinal à déconstruire quand on prend des antibiotiques finalement.
Oui.
Il y a eu cette fameuse campagne, les antibiotiques, c'est pas automatique, mais on se rend compte quand même que pour bon nombre d'auditeurs de Sud Radio, et évidemment pour bon nombre de Français, ça reste un automatisme. Pourquoi ?
Mais parce qu'on a pris cette habitude, quand on a de la fièvre, quand on est malade, qu'on tousse, qu'on a des brûlures en urinant, eh bien il faut prendre des antibiotiques, et quelquefois cela se fait en automédication, quand on se procure des antibiotiques sans ordonnance, et on a ainsi un usage excessif.
D'accord. Mais on va entendre à travers les questions des auditeurs de Sud Radio ce qu'il y a hein, comme mythe à déconstruire à travers les antibiotiques, j'imagine. Hein. Donc vite, le 0826-300-300, bien sûr, pour poser vos questions. Vous avez la chance d'avoir du sur-mesure avec le professeur Boyan Christophorov. Alors allez-y, c'est dès le début de l'émission qu'on va vous entendre. Et puis il y a notre page Facebook, service compris, faut que ça bouge. Alors professeur, les antibiotiques... ça nous a quand même changé la vie parce que il y a des morts célèbres qui auraient évidemment vécu beaucoup plus longtemps si à l'époque on avait connu les antibiotiques. Hein. Rappelez-nous quand même ce qui s'est passé.
Eh bien, avant on mourait très jeune. Schubert est mort à 31 ans de la typhoïde. Chopin est mort de la tuberculose à 39 ans. Tchaïkovski à 53 ans, il est mort du choléra. Tous ces gens-là auraient vécu beaucoup plus longtemps, et bien entendu des millions et des millions d'autres qui sont plus anonymes mais qui sont morts, que ce soit dans l'enfance, que ce soit dans l'âge adulte. Et la découverte des antibiotiques a complètement changé le paysage de la médecine et la démographie.
Et ça, la découverte des antibiotiques, c'est quoi? C'est 1930?
C'est à partir des années 1930. C'est un savant qui s'appelait Alexandre Fleming qui a découvert la pénicilline.
D'accord,
mais
bah oui, bien sûr,
fallu
c'est la pénicilline.
Une quinzaine d'années avant que l'on passe de la découverte par le savant à la production et à la mise sur le marché.
Et depuis 1981, on découvre moins d'antibiotiques ?
Parce qu'on a épuisé la plupart des pistes de recherche. Par exemple, on se servait de champignons ou de microbes qui vivaient dans la nature, dans la terre, et dont on extrayait des substances qui étaient des antibiotiques. Maintenant, on a épuisé un peu.
Mais est-ce qu'on pourrait avoir des surprises quand même ?
Ah ben bien entendu, il y a régulièrement de nouveaux antibiotiques, mais il y en a très très peu.
D'accord. Alors... pour qu'on ait tous le réflexe de savoir ce qui est bon ou non en matière d'antibiotiques, surtout quand on a tendance à l'automédication, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quels sont les réflexes qu'on doit avoir? Un rhume, non, les antibiotiques, ça marche pas.
Je crois qu'il faut pas s'automédiquer à l'excès. Je crois que, vous savez, lorsqu'on s'automédique, on rend résistant les microbes de l'environnement. Dans les pays très peu surveillés, la quasi-totalité des microbes sont résistants. Dans les pays très surveillés, où les antibiotiques sont donnés sur ordonnance et d'après des conseils très précis, c'est-à-dire les pays du Nord, eh bien, il n'y a pratiquement pas de résistance. Et nous, la France, on est toujours entre les deux.
Bah oui, mais donc on a intérêt à prendre le moins d'antibiotiques possible, et ce,
oui,
dès le jeune âge, non ?
Oui, enfin, je crois qu'il faut, il faut se fier au conseil des médecins.
Oui, mais certains ont tendance à donner beaucoup d'antibiotiques. Hein.
Je sais, parce que les malades le demandent, les malades s'impatientent.
Ah, d'accord, ça va dans les deux sens.
Tout à fait.
Hein,
tout
bon,
à fait.
Allez, on va écouter les auditeurs. Ils sont déjà là. Évidemment, on va continuer ce débat sur les antibiotiques et vous allez nous donner de bonnes infos sans tomber dans la consultation, toujours. Hein. On alerte les auditeurs là-dessus. Bien sûr, ça ne peut pas être du sur-mesure de la super consultation. Vous vous doutez bien. Mais si vous avez besoin d'être rassuré, vous n'hésitez pas. Un petit coup de fil à Sud Radio Service compris avec le 0826 300 300. C'est le numéro qu'a fait Amandine. Bonjour Amandine.
Oui, bonjour. Alors en fait, j'avais une petite question. Je voulais savoir, par rapport aux antibiotiques, si le fait d'en prendre régulièrement, ça devenait nocif pour la santé.
Ce n'est pas nocif pour la santé à proprement parler, mais d'abord, il n'y a pas tellement de raison de prendre en permanence des antibiotiques. Les antibiotiques se donnent pour une durée limitée, que c'est 5 jours, 7 jours, certaines maladies exceptionnelles, beaucoup plus. Mais le fait de prendre à point nommé et bien fondé les antibiotiques n'a aucune nuisance.
Oui, il n'y a pas de maladie qui serait liée à une surconsommation des antibiotiques.
Pas comme ça en général. Il y a certains médicaments, certains antibiotiques qui donnent des allergies, d'autres sont toxiques. Mais il y a des mises en garde et puis les médecins qui les prescrivent savent à quoi s'en tenir.
Et on dit souvent que les antibiotiques fatiguent, c'est vrai ça ?
C'est absolument pas vrai.
Ah bon ?
Absolument pas. C'est-à-dire que les gens sont malades, ils ont la fièvre, ils prennent un antibiotique qui fait tomber la fièvre, ils sont fatigués d'être en convalescence, mais ils accusent les antibiotiques alors que c'est la maladie qui est en cause.
D'accord, c'est normal, hein, Amandine. Est-ce que vous prenez beaucoup d'antibiotiques ?
C'est plutôt ma sœur et je m'inquiétais pour elle en fait, c'est surtout ça. Donc elle en prend plutôt régulièrement, donc voilà, c'était pour savoir si à terme...
Elle a peut-être des raisons médicales d'en prendre. Elle le fait sous le contrôle de médecins ?
Oui, après ça peut être aussi de temps en temps une aspirine ou quelque chose, enfin, ça peut être des réflexes aussi comme ça, c'est pas toujours forcément prescrit, après c'est souvent des médicaments aspirine ou spasfond, tout ça, enfin tous ces médicaments.
Attendez, ni l'aspirine ni le spasfond ne sont des antibiotiques, c'est des
médicaments. Mais voyez professeur, c'est pas pour rien qu'on fait cette émission.
Ou d'utilité, mais c'est pas des antibiotiques.
Alors, donnez-nous des noms d'antibiotiques connus, non ?
Oh, la pénicilline, la streptomycine, la tétracycline.
Tout ce qui finit en ine.
Oui,
mais pas l'aspirine, justement. Oui. Oui, non, mais c'est important. Moi, je vous dis, on confond tout. Hein, Amandine, on confond tout. Moi, je confonds tout. Bon, l'aspirine,
oui,
ok, on sait que c'est pas un antibiotique. Ça, jusque-là, ça va bien. Bon. Merci, Amandine, pour votre question et votre participation à Sud Radio Service compris. Donc, bon, alors, professeur. On ne peut pas, de toute façon, rentrer dans une pharmacie et demander comme ça des antibiotiques.
Non, absolument pas.
Il faut toujours être passé par un médecin généraliste.
Donnez-moi votre ordonnance, dit le pharmacien.
D'accord. Est-ce que si tout un chacun, si j'ose dire, a le réflexe citoyen de faire en sorte de prendre le moins d'antibiotiques possible, ça fait que les souches vont devenir de moins en moins résistantes ou le mal est fait ?
Non, le mal n'est pas fait. Si on arrête les excès, petit à petit, la flore des microbes retrouve une sensibilité plus grande aux antibiotiques, puisqu'il y a une diversification qui se fait.
Mais est-ce que, depuis qu'il y a eu la campagne, les antibiotiques, ce n'est pas automatique ? Ou, avec ce que vous nous dites, on peut déjà quantifier une moindre résistance ? Est-ce que c'est possible, ça, sur le plan médical ou pas ? Non, on navigue un peu à l'aveugle ?
En France, non, les hygiénistes connaissent parfaitement la sensibilité des antibiotiques. La montée des résistances a été ralentie et on n'est pas encore redescendu au niveau de la Suède, de la Norvège ou de la Finlande.
D'accord, mais alors vous qui êtes un spécialiste, qui regardez ça à la loupe, vous pensez qu'on pourrait vraiment quantifier un vrai ralentissement qui serait quand même une bonne nouvelle ?
On pourrait, mais il faut un gros effort. J'apporte un bémol quand même. Si la résistance des antibiotiques aux antibiotiques s'est accrue, le nombre de cas d'évolution grave liée aux résistances n'a pas beaucoup augmenté.
D'accord.
Cela arrive dans certains secteurs des hôpitaux où il y a de la réanimation, où il y a des malades
compliqués. Mais justement, j'allais y venir. C'est pour ça que je vous posais cette question.
Mais dans la vie courante, et bien que, par exemple, les pneumocoques, qui sont des microbes très courants, sont beaucoup plus résistants qu'autrefois aux antibiotiques, eh bien, les médecins généralistes n'observent pas d'évolution grave du fait d'une bronchite infectieuse, parce qu'on a des antibiotiques différents, on peut les varier.
Oui, parce qu'on se pose la question de la dangerosité des antibiotiques et de leur effet quand on met le pied dans un hôpital. Surtout, hein, il y a des cas quand même.
Attention,
ah bah oui, mais éclairez-nous là-dessus, professeur.
Dans un hôpital, si vous arrivez dans un hôpital ordinaire, vous n'avez pas de risque important. Les gens disent « Ah, je vais à l'hôpital, il y a l'infection nosocomiale ». En revanche, dans un hôpital, il y a des secteurs, mais qui sont en général isolés, avec une interdiction au public d'y pénétrer, des secteurs où existent des germes dangereux.
Et alors, comment on fait pour éviter la résistance aux antibiotiques? Comment on se protège? On le sait, ça? Ça vous paraît évident, vous, professeur. Mais quand vous dites qu'il y a des secteurs dans les hôpitaux...
Il y a des secteurs où il y a des microbes, où les gens luttent contre ces infections. Ils ont des antibiotiques particuliers qui sont souvent maintenant interdits à la commercialisation, réservés à ces cas graves. Mais c'est un secteur tout à fait différent.
D'accord.
Si vous allez rendre visite à votre vieille tante qui est hospitalisée, soyez tranquille parce qu'elle a fait une complication cardiaque. Soyez tranquille, vous n'attraperez aucune maladie.
D'accord. Allez, les antibiotiques, est-ce que pour vous c'est automatique? Est-ce que vous vous dites j'ai envie de tester autre chose mais je ne sais pas quoi parce que mon médecin généraliste me donne trop d'antibiotiques à mon goût? Toutes les questions sont les bienvenues pour le professeur Boyan Christophorov qui est avec vous jusqu'à 14h sur Sud Radio et qui vous offre son beau service compris. Allez, le 0826 300 300, et puis notre page Facebook, Service Compris. Faut que ça bouge, on se bouge avec vous, on voudrait que vous vous bougiez avec nous. Allez, on vous attend.
Sud Radio, Service Compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier.
Service Compris, l'émission qui vous trouve des solutions pour vous aider dans votre vie quotidienne. Hein, c'est pas rien. Aujourd'hui, le professeur Boyan Christophorov vous éclaire sur les antibiotiques. Donc, toutes vos questions via le 0826 300 300 et via la page Facebook Service Compris. Faut que ça bouge. Professeur Boyan Christophorov, Manon vous demande: que pensez-vous de la médecine alternative type homéopathie? Parce que c'est vrai que on se rend compte que les antibiotiques, c'est pas une fin en soi, qu'on sait pas toujours les utiliser à bon escient, surtout si on part dans de l'automédication. On voit évidemment que les souches sont de plus en plus résistantes avec les conséquences que vous nous avez exposées. Alors l'homéopathie, est-ce que ça peut être une alternative à la prise d'antibiotiques?
À mon avis, absolument pas. Absolument pas. Il y a des maladies virales, la plupart des maladies virales guérissent toutes seules, et si on prend un médicament homéopathique, eh bien on sera guéri. Mais jamais, mais grand jamais, il n'a été prouvé qu'un médicament homéopathique pouvait tuer des microbes qui, eux, sont capables de vous tuer.
Voilà, donc attention, l'homéopathie, pourquoi pas, l'effet placebo, les médecins disent pourquoi pas. Le fameux arnica qu'on prend en matière d'homéopathie, les petites granules d'arnica, pourquoi pas, quand on a un bobo de l'âme ou un bobo physique. Mais les antibiotiques, rappelons effectivement à Manon et à tous ceux qui nous écoutent que c'est utilisé à bon escient pour agir sur les microbes.
Absolument.
Alors à ce propos, faisons un petit topo, après je vais accueillir la question de François, bien entendu, qui patiente via le 0826 300 300. Mais les antibiotiques, souvent on nous dit, quand les enfants sont malades, allez hop, avec les antibiotiques ça va passer, plutôt que le gamin fasse une angine ou une grippe pendant 10 jours, en 5 jours c'est réglé. Pour les enfants, c'est pas dangereux?
Non, c'est pas dangereux, mais ce n'est pas bien. Vous savez, les enfants naissent indemnes de toute immunité, et donc petit à petit rencontrent tous les virus et ils s'immunisent. Ceux qui vont à la crèche sont immunisés beaucoup plus vite, les parents le savent, ils sont souvent malades. Mais de temps en temps, il existe une infection bactérienne, et la connaissance des médecins fait qu'ils savent les détecter. Il y a d'ailleurs des petits kits qui permettent de détecter dans une angine s'il s'agit ou non d'un streptocoque, car le streptocoque, c'est un germe qui est dangereux, et à ce moment-là, de traiter. Donc, la plupart des maladies de l'enfance sont virales, il faut les surveiller, et certaines sont
bactériennes. Donc, la plupart des maladies, ça c'est important, professeur Boyan Christophorov.
La très grande majorité.
La plupart des maladies infantiles sont d'origine virale.
Absolument.
Alors, rappelons lesquelles, les
oh là,
plus connues.
Il y en a eu, je vais vous citer des noms savants, mais en gros, c'est ce qu'on appelle les rhumes, les rhinopharyngites et toutes ces choses courantes.
Donc,
il y a une situation dont il faut se rendre compte, c'est que ces maladies durent un certain temps, elles guérissent toutes seules, mais au prix d'une période fébrile. Et il y a des parents qui vont s'impatienter, ils vont faire venir le médecin et dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la fièvre ne tombe pas? Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas des antibiotiques ?»
Oui.
Et à un moment donné, le médecin est un peu gêné. Ça m'arrivait à moi quand j'étais père et quand j'avais des enfants. Ma femme me disait « Mais enfin, tu ne donnes pas des antibiotiques, est-ce qu'il ne faut pas faire venir un vrai médecin ?»
Oui, oui, alors que c'est important finalement, hein, le message à faire passer, c'est laisser les enfants finalement vivre la maladie. Hein,
oui,
c'est important.
En ayant l'œil dessus quand même.
Ça les rend plus résistants.
Ils font leur immunité.
Ah oui, ils font leur immunité.
Mais ça
d'accord.
N'empêche pas d'ailleurs qu'à l'âge adulte, de temps en temps, ils fassent un rhume ou ils fassent.
Voilà. Donc, message très important, c'est pas la peine de bourrer les enfants d'antibiotiques parce que la plupart des maladies qu'ils connaissent quand ils sont tout petits sont d'origine virale et les antibiotiques agissent sur les microbes.
Absolument.
Donc, dans quel cas concernant un enfant, l'antibiotique est imparable ?
Je vous dis, c'est toute la médecine. Les gens apprennent, les médecins, les pédiatres, les généralistes savent dans quel cas il y a un risque qu'il s'agisse.
Quand on a identifié le germe.
Pas forcément. Il y a des situations où on ne peut pas identifier le germe, mais on a des raisons très fortes d'y penser. Et à ce moment-là, on donne un antibiotique.
On accueille François qui patiente et qui a fait le 0826-300-300. Bonjour François.
Bonjour François.
Bonjour Véronique, bonjour professeur. Voici ma question. Je fais partie de cette génération de gens qui avons très bien intégré les antibiotiques, mais pas automatiques. Pour autant, depuis quelques années, j'ai l'impression que ça baisse un peu en intensité en termes de prévention. Et vous rappeliez que dans certains pays, les efforts ont payé et apparemment pas tout à fait en France. Alors, n'y a-t-il toujours pas une petite pression de l'industrie pharmaceutique au-dessus de tout ça ? C'était ma question, en fait.
La pression de l'industrie pharmaceutique est très faible. Elle est même voisine de zéro. La pression de l'opinion des patients, elle est forte. Ils veulent être guéris rapidement. Mais vous avez tout à fait raison de dire que cette campagne de prévention, les antibiotiques, c'est pas automatique, son effet s'est épuisé. Les publicitaires le savent très bien. Un message très fort obtient un certain effet, puis au bout de quelques mois, de quelques années, ça s'efface et donc il faut faire des piqûres de rappel.
Ben voilà, c'est ce que j'allais dire, professeur. On fait des piqûres de rappel dans cette émission Service Compris sur Sud Radio. Mais pour rejoindre la question de François, finalement, s'il n'y a pas de poids de l'industrie pharmaceutique, c'est aussi parce qu'on ne trouve plus de toute façon d'antibiotiques. Vous l'avez dit, c'est très rare maintenant.
Non, il y a deux choses. Il y a les médicaments nouveaux, mais les médicaments nouveaux, en général, on les réserve à la médecine hospitalière, aux infections graves, justement, aux résistances. Mais pour ce qui est de la médecine courante, ben les fabricants sont des fabricants et des commerçants comme tout le monde. Ils font l'éloge de leurs médicaments. Ce n'est pas eux qui les prescrivent.
D'accord. Entendu, François ?
Oui, tout à fait. Ben, merci. C'était très intéressant, en tout cas.
Merci François pour votre question. Dust est avec nous. Bonjour Dust.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous écoute avec le professeur Boyan Christophorov. Votre question par rapport aux antibiotiques.
Oui, déjà je voudrais rappeler à nos amis auditeurs que ces fameux microbes qu'on est censé combattre avec les antibiotiques sont des bactéries. Et les deux caractéristiques de ces organismes qui leur ont permis la survie depuis l'origine de la vie, c'est que, un, ils se reproduisent extrêmement rapidement, et deux, ils peuvent assez facilement changer des parties de leur ADN. C'est pour ça que nous, humains, on a intérêt à faire extrêmement attention à l'utilisation de ces antibiotiques. Et c'est là que je voudrais faire une petite virée vers l'agriculture, là où certains élevages industriels, notamment dans la volaille et les porcs, peuvent donner des antibiotiques en prévention, parce que les élevages sont tellement gros qu'ils sont, il y a des grosses probabilités qu'il y ait des épidémies, des épizooties, et du coup, cette utilisation des bactéries envers les animaux nous met en danger aussi, parce qu'elle favorise l'émergence de bactéries résistantes. Parce que quand il y a une infection bactérienne, on peut se douter que toutes les bactéries ne sont pas tout à fait pareilles. Et si on abuse d'antibiotiques, il y en a quelques-unes qui sont un peu minoritaires, qui vont devenir majoritaires par le décès des autres. Et c'est pour ça que les gens, il faut qu'ils comprennent bien que c'est très 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 délicat d'utiliser antibiotiques. Et une deuxième petite remarque, il me semble qu'il y a des antibiotiques d'origine naturelle dont d'ailleurs l'industrie pharmaceutique se sert pour faire ses propres cachets. Donc oui, effectivement, je pense que souvent on est léger avec l'utilisation des antibiotiques.
Alors,
oui, il y a des choses très intéressantes dans ce que vous dites. Je réponds à votre dernière remarque. La plupart des antibiotiques ont été tirés justement de la nature. Et il n'y a pas d'antibiotiques dans la nature sans médicaments. Dès qu'on détecte une action antibactérienne, l'industrie s'en empare et fabrique des médicaments. L'administration d'antibiotiques dans les élevages est un gros problème. Il faut distinguer deux choses. Il y a d'abord les épizooties. Comme vous dites, il y a de grands élevages et lorsqu'une épizootie, c'est l'équivalent d'épidémie, se déclare, c'est une catastrophe pour l'éleveur. Ça, c'est une chose et les vétérinaires ont à faire dans ce domaine. Les traitements qu'ils donnent sont des traitements de durée limitée. Et puis, vous savez, quand un animal est malade, on le tue, on calcule l'intérêt économique, on ferme éventuellement l'élevage jusqu'à éradication. Un autre aspect, c'est l'addition systématique d'antibiotiques dans les élevages. Car on a remarqué, qu'il s'agisse de poulets, qu'il s'agisse de porcs, que de donner des antibiotiques améliorait le rendement en termes de production de viande. Cet aspect-là des choses comporte des dangers. Alors en France, c'est interdit. Mais il y a des pays où c'est permis, et notamment aux États-Unis, et dans les discussions à propos des traités commerciaux, c'est un des éléments qui bute dans le fameux TAFTA, parce oui. qu'il peut y avoir des antibiotiques dans les élevages.
Merci pour votre question pertinente, Dustin. C'est vrai que c'est intéressant d'élargir le sujet à la prise d'antibiotiques chez les animaux et ses conséquences, évidemment, pour notre alimentation. On accueille Alexandre, qui est avec nous via le 0826-300-300. Bienvenue. Bienvenue sur Sud Radio, Alexandre.
Bonjour.
Bonjour, bien sûr. Alors votre question pour le professeur.
Moi, je vous appelle parce qu'en fait, je suis allergique à la pénicilline. Et mon médecin, il est souvent un peu perdu parce que la pénicilline, c'est ce qu'on donne en général comme antibiotique. Et j'aurais voulu savoir quelles alternatives il y avait pour ça, en fait, pour remplacer la pénicilline.
Votre question est tout à fait pertinente et importante. La pénicilline est l'antibiotique le plus prescrit sous diverses formes. Et les allergies à la pénicilline sont assez fréquentes au point d'être quelquefois un obstacle.
Et elles se traduisent comment ces allergies
elles
pour ceux qui...
Elles se traduisent essentiellement par des éruptions cutanées puis des maladies générales, de la fièvre, enfin.
Ah d'accord, ah oui quand même.
Donc c'est extrêmement important. Alors, lorsque l'on est allergique à la pénicilline, il faut le dire à son médecin, et il y a d'autres antibiotiques qui ne sont bien entendu pas allergiques chez tel ou tel patient. On n'est pas allergique à la totalité des antibiotiques, on est allergique à la pénicilline. Si le problème est important, on peut consulter un allergologue, car tous les dérivés de la pénicilline ne donnent pas d'allergie croisée, donc ça ils le savent. Mais c'est un gros problème, et il faut le dire, car certaines administrations à des gens allergiques peuvent entraîner des catastrophes.
Les allergologues sont de...
Par exemple,
oui, allez-y.
Pardon, mais notamment, par exemple, vous arrivez à l'hôpital en urgence, vous êtes inconscient, on doit vous prescrire des antibiotiques et les médecins ne savent pas forcément que vous êtes allergique à la pénicilline. Pardon.
C'est un réel problème. C'est un réel problème. Si les gens ont sur eux une carte indiquant qu'ils sont allergiques à la pénicilline, ça peut leur améliorer la situation. Heureusement, le type de situation que vous décrivez est très très rare. Mais enfin, c'est vrai, c'est un grand danger.
Ça existe, ça existe. Alexandre, merci pour votre question très pertinente, là encore. Professeur Boyan Christophorov, sur notre page Facebook, Service Compris, faut que ça bouge. Georges nous dit, et finalement c'est pas mal pour conclure cette émission, j'ai 65 ans, je n'ai jamais consommé d'antibiotiques de toute ma vie et je n'ai jamais été malade. Je pense que le corps a de quoi se soigner seul, sauf cas extrême, évidemment. Je vous le concède. Je ne suis pas contre la médecine, mais je trouve qu'on doit utiliser les antibiotiques avec modération. Bah, c'est pas mal pour résumer les choses.
Tout à fait, je crois qu'on ne peut pas le contredire. Bon, il a beaucoup de chance et il faut lui souhaiter que cette chance se poursuive. Mais d'abord, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son enfance. Hein. Et lui non plus. Parce qu'il a très bien pu avoir des maladies infectieuses de l'enfance qui ont été traitées avec des antibiotiques. Mais sinon, la santé absolue...
ça n'existe pas. Vous en avez trop vu, hein. Vous en voyez trop dans votre carrière pour dire.
De toute façon, vous savez, à la fin de la vie, on ne meurt jamais de vieillesse. On meurt d'une maladie survenant chez une personne âgée.
Ah oui, c'est vrai. Merci à Georges pour son petit clin d'œil. Il peut nous répondre, évidemment. Il peut commenter les propos du professeur Boyan Christopherov. Professeur, on vous retrouve très prochainement, bien sûr, pour une belle émission sur Sud Radio, dans Service Compris, dans notre page santé du mercredi, hein, entre 13h25 et 14h. Il y a une autre page santé, c'est le lundi, bien sûr, entre 13h et 13h30. Lundi prochain, tiens, nous aurons un spécialiste du sommeil, le professeur Joël Adrien, qui nous parlera du sommeil chez les personnes âgées. Hein, on entend trop de personnes âgées dire « moi je dors mal, c'est normal » ou « je dors pas beaucoup, c'est normal ». Non, à entendre le professeur Joël Adrien, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de normal. Donc on va mettre les choses sur la table. Allez, je vous retrouve demain bien sûr pour une belle émission. Le jeudi, à la place du professeur Boyan Christopherov, il y aura notre avocat Sud Radio, maître Bertrand Pavlik. Et prenez date d'ores et déjà, puisqu'on parlera des litiges que vous rencontrez avec les opérateurs de téléphonie mobile. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de conseils à vous délivrer et on fera tout pour vous aider. Allez, à demain.